Vous êtes bien à l'écoute de Transistor Midi. Il est 13h sur nos ondes, l'heure du journal de l'actualité, un journal plein de bonnes nouvelles pour vous mettre de bonne humeur. Alice et Pierre enchaînent pour vous les meilleures et les plus réjouissantes informations de l'actu.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des bonnes nouvelles. Nous sommes en direct pour la deuxième fois à l'occasion de cette si belle journée de la radio. Nous sommes là pour vous faire sourire un peu et mettre du soleil dans votre midi. Oui. Je suis actuellement en remplacement de Nicolas, pour qui toutes nos pensées vont droit au cœur, on espère. Et je suis toujours en compagnie d'Alice. Bonjour Alice. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Pierre, et ben aujourd'hui on va commencer avec de l'environnement et des éléphants, pour ensuite tout vous dire sur deux initiatives individuelles et adorables aux États-Unis. Puis on terminera ce journal sur des nouvelles plus politiques au Pays Basque et aux Pays-Bas, jeu de mots tout à fait fortuit.
Et pour la chronique animaux mignons de ce journal des bonnes nouvelles, direction le Cambodge, plus précisément dans la réserve naturelle de Khao Saima, où pas moins de 11 éléphants d'Asie ont été secourus à la fin du mois dernier.
Oui, adorable.
La dizaine de pachydermes s'est retrouvée coincée dans un trou creusé par une bombe lors de la guerre du Vietnam. Le trou, dont les parois atteignaient environ 3 mètres, avait été mis à profit par des agriculteurs pour stocker de l'eau, transformant la fosse en un piège boueux dont les éléphants n'ont pu être délivrés que par la construction express d'une rampe. Le sauvetage n'a pris que quelques heures et les animaux ont été nourris et abreuvés pendant la construction de la rampe. Ils sont désormais tous libres, sains et saufs.
Eh ben merci pour cette première nouvelle, Pierre. Et on va partir cette fois pour l'Inde pour parler un petit peu d'environnement et d'énergie. Parce que il y a 2 semaines plutôt avec Nicolas, on vous parlait d'une île écossaise autosuffisante en électricité. Eh bien, l'Inde n'y est pas encore malheureusement, mais ça avance. En effet, le pays a presque doublé sa production d'électricité par panneau solaire en un an. Il est passé en fait de 6763 MW fin mars 2016 à 12 289 MW fin mars 2017. Donc on voit que c'est quand même plutôt une bonne hausse. Et en effet, on comprend aussi qu'une telle hausse a pu être réalisée, puisque avec l'élection en 2014 du Premier ministre Modi et les quelques objectifs qui ont été fixés par son gouvernement en matière d'énergie, on voit que la place des énergies renouvelables s'est un petit peu accrue, parce que c'était pas forcément un sujet qui prenait beaucoup de place dans la politique de l'Inde. Et on a donc des commentateurs qui, effectivement, donnent leurs avis, et notamment M. Santosh Vaida, qui souligne que le gouvernement s'était quand même fixé un objectif de 20 000 MW, mais que tout de même, le résultat obtenu est déjà significatif, et que des progrès en la matière sont donc bel et bien possibles. Les conséquences pour le budget indien sont aussi assez importantes, elles se font déjà ressentir, puisque... produire des énergies renouvelables est en fait moins cher et du coup certains départements des ministères indiens, comme notamment celui des transports, espèrent pouvoir récupérer un petit peu d'argent pour développer les lignes de chemin de fer à travers le pays.
Et zoom, on se rend droit à Los Angeles, où un Angeleno nommé Eugene Yoon a eu une révélation il y a de cela 2 ans. Il s'est senti appelé à faire une bonne action pour quelqu'un.
Incroyable.
Quelque chose qui puisse vraiment changer la vie de cette personne. Il a alors rencontré, par le biais d'une vidéo sur Internet, Arthur Renovitsky, paralysé à la suite d'une agression à l'arme à feu. C'est alors devenu l'unique objectif d'Eugène que de voir Arthur marcher à nouveau. Il a abandonné son métier afin de lancer une grande campagne de financement pour un exosquelette pour Arthur. Il a commencé à traverser les États-Unis à pied, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, tout en relayant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est environ au niveau de l'État de Washington, ou Washington pour nos amis québécois, qu'il a appris que son objectif de 80 000 $ pour l'achat de l'exosquelette était atteint. Bon, Mais vous allez me dire, ça fait quand même 2 ans. Et c'est bien vrai, c'est pas une nouvelle qui date d'hier, en effet, ça date plutôt de décembre 2015. Mais la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que Jen Yoon ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a décidé de continuer sur sa lancée, et il a cette fois rencontré Alberto Velasquez, qui vivait dans des conditions précaires avec 24 membres de sa famille. Il a alors embauché Alberto pour créer une chaîne de vêtements éthiques. Alberto a désormais un travail et la marque de vêtements peut proposer aux clients des vêtements de qualité, faits main et avec amour.
Merci Pierre, et on va rester toujours aux États-Unis, et je vous le garantis avec une nouvelle qui normalement devrait vous attendrir, ou sinon, bon, bah, posez-vous des questions sur vous-même, quoi.
D'accord, très bien.
Je vous fais des bisous quand même, on vous aime bien. Donc en fait, il s'agit d'un vieux monsieur de 88 ans qui est veuf depuis maintenant quelques années, oui, je sais, ça commence très bien, mais qui, en souvenir de sa femme, et pour faire le bien autour de lui, parce que ça compte quand même, a décidé de coudre des couvertures. En fait, l'histoire remonte vraiment à plusieurs années, enfin, quand je dis à plusieurs années, c'est vraiment plusieurs dizaines d'années, où lui et sa femme réalisaient déjà ensemble des couvertures, mais c'était la femme de ce monsieur qui s'occupait notamment de choisir les tissus, de les coudre ensemble, de faire les finitions, et c'était elle qui mettait le tout en forme et qui décidait quoi faire avec. Et ce monsieur a décidé de continuer tout seul à faire ses couvertures. Et avec toutes celles qu'il est déjà parvenu à réaliser, il a pu équiper tous les officiers de police de sa ville. Donc ces policiers en fait utilisent les couvertures lorsqu'ils sont confrontés à une personne en état de choc ou alors lors d'opérations dans des températures très basses pour protéger les civils, parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un peu compliqué quand on arrive qu'il fait moins 15 et qu'on n'a rien à proposer. Par exemple, à quelqu'un qui vient de se blesser, quoi. Donc, cette mission accomplie pour ce monsieur, ce super papy a décidé de ne pas s'arrêter là. Sa nouvelle mission, offrir toutes les couvertures à venir à l'hôpital pour enfants Peyton Manning à Indianapolis.
Oui, yes. I see. Good news, everyone.
Et maintenant, passons à des nouvelles politiques, mais pourtant de bonnes nouvelles quand même.
C'est assez rare pour le souligner.
Oui, ce sont des choses qui arrivent.
Et donc, cette fois-ci, on va faire un long trajet et nous allons descendre dans le sud, au Pays Basque. Alors, il y a du nouveau dans le développement de l'arrêt des opérations armées de l'organisation séparatiste ETA. Organisation séparatiste qui a été particulièrement active dans les années 80 et 90, causant, hélas, la mort de 829 personnes. Mais pourtant, en 2011, l'organisation a décidé de décréter un cessez-le-feu et a commencé son opération de désarmement. Eh bien, ce samedi 8 avril, oui, il a fallu beaucoup de temps, mais au moins l'effort est là. Donc, ce désarmement a nécessité une organisation très importante, les membres de l'organisation étant bien entendu recherchés à la fois par les autorités françaises et les autorités espagnoles, parce que le Pays Basque, c'est à cheval sur les deux pays.
Merci pour la géographie.
Des membres de la société civile, parfois des bénévoles du groupe Artisans de la Paix, mais aussi des personnalités, soit politiques, soit citoyennes, telles que José Bové, Matteo Zuppi, représentant du Vatican, ou encore Harold Good, qui a également participé au désarmement de l'IRA en Irlande, autre groupe indépendantiste qui a causé beaucoup de morts en son temps. Ils ont donc ainsi joué le rôle d'observateurs, tandis que les autorités françaises ont sécurisé le site de stockage des armes et d'explosifs, et il n'y avait aucun accident. Bernard Cazeneuve, notre actuel Premier ministre, ou ancien ministre de l'Intérieur et ministre de plein d'autres choses avant ça, a annoncé que les produits dangereux seront détruits, tandis que les armes pourront aider à résoudre des affaires encore ouvertes. Dans le but de reconstituer l'histoire complexe du mouvement terroriste et d'amener des réponses aux familles, surtout des victimes. La page du terrorisme basque n'est donc pas complètement tournée, mais on arrive à la fin du bouquin. Ce désarmement qui s'est passé à merveille est une excellente nouvelle pour la région et nos deux pays concernés.
Et enfin, comme promis, on vous emmène aux Pays-Bas où c'est plat, mais où les gens ont quand même l'air plutôt sympas. Alors bon, après ça va entrer en directe contradiction avec la phrase qui suit tout de suite, mais il faut pacifier. Hein. Alors, Après la violente agression d'un couple homosexuel attaqué parce que les deux hommes se tenaient par la main,
cool,
parce que
oui.
C'est pas très très fun.
Sympa.
Ce qui est le plus sympa après, par contre, c'est que de nombreux Néerlandais se sont mobilisés dans les jours qui ont suivi. Et on a notamment pu observer sur les réseaux sociaux et les Néerlandais dans la rue, ils ont pu observer en fait des hommes qui se tenaient par la main, quelle que soit leur orientation sexuelle, en soutien à ces deux hommes agressés. Et on a notamment pu voir se balader Alexander Pechtold, le chef du Parti libéral démocratique, et Wouter Koolmees, un membre de ce même parti, main dans la main, alors qu'il se rendait en plus à une manifestation en faveur des droits des homosexuels. Et ce qui fait encore plus chaud au cœur, c'est de voir que cette initiative a été suivie un peu partout dans le monde, notamment à New York et La Havane, mais dans la communauté des expatriés néerlandais, mais aussi par certaines autres personnes qui cherchaient à montrer leur soutien. Donc c'est une initiative qui nous fait plaisir. Et sur toutes ces bonnes nouvelles, nous vous souhaitons à tous une très belle journée sur Transistor.
Mais elle est forcément un petit peu plus belle grâce à vous deux et grâce à ce journal des bonnes nouvelles vitaminées. Et on en profite pour faire un clin d'œil à l'homme de l'ombre, le havrais resté embusqué dans un labo à Paris hors de cette journée de la radio. Nicolas, jamais accord de bonnes nouvelles et de chouettes idées. Tu nous écoutes certainement et on t'embrasse très fort.
On t'aime, Nicolas.
Et après le journal, c'est l'heure de la météo. Oui. Mais de la météo marine. Elle vous est présentée par Rémi, notre couteau suisse à nous, l'homme de notre situation. Rebonjour Rémi.
Rebonjour.
La météo marine sur Transistor.
Bonjour à tous, voici le bulletin de météo marine de ce jeudi 13 avril sur les ondes de Transistor. Grand frais à prévoir pour Malines, Fischer, Fastnet, Antifer et Viking, dépression à 980 hectopascales se déplaçant d'Iroise à Cantabrico demain soir, et anticyclone prévu pour Finistère, Irish Sea, Yeux, Rochebonne et Tamise, prévu 1020 hectopascales quasi stationnaire. Enfin, la mer sera forte à très forte, avec une dépression de 960 hectopascales dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les Arméniens, les Comoréens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens et pour des tas d'autres que je n'ai pas cités, eh bien je vois quoi ? Je vois des Marseillais mollissant fortement, mais surtout, je vois des Français. Pour les Français, justement, grosse dépression à venir dans environ 10 jours à 950 hectopascales, hélas presque stationnaire, avec des houles de force 9 à 11 et un vent de droite fraîchissant force 10 à 12. Un vent qui profitera à tous, promis.
Parce que tous les peuples du monde ont besoin d'un accès à la mer.
Exactement, Jean-Luc. Pour les voies d'accès aux écoles normales supérieures également, fort vent contraire, prenez garde à la houle de force 8 qui pourrait renverser le concours que vous briguez, ou comment les cyclones rappellent la colonisation à notre mémoire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on ait un traité international sur les eaux profondes.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va repousser les épreuves, regarder l'anticyclone qui s'installe sur Cabrera, Baléares, Provence, Lipari, Annaba, Sardaigne, Lyon, Tunisie, à 1080 hectopascales, mer calme, force 2 à 3. Eh bien non, c'est pas pour nous, on va retourner réviser les inégalités en pensant à la Nouvelle-Calédonie. Ou bien, on va tout abandonner, les cyclones et les meetings marseillais, l'avenir prometteur et les jeunes moussaillons avides de marcher sur l'eau, les bras en croix et les dents bien plantées dans les fonds marins. Oui, tout oublier et rejoindre Pazen, Iroise, Cabrera, Doguer, Ouessant, Antifer, Cantabrico, Sireco, Lipari ou Alger, dans le lit d'une onde très très longue à laquelle nul directeur de Radio France ne pourra toucher. C'est impossible, direz-vous, mais la météo, c'est moi, j'annonce ce que je veux.
En laissant baisser son cœur. Oh.
Alors merci Rémi, j'ai une petite question pour toi quand même. Pourquoi est-ce que tu prends une voix de fipette quand tu fais la météo marine? Ça m'intrigue un petit peu. T'es pas surexcité comme d'habitude?
Non mais la météo marine c'est calme. Et puis de toute façon il faut bien que je change un petit peu mes voix. Si je reprends la voix du cuisinier tout à l'heure, les gens vont faire des amalgames.
Et on veut surtout éviter les amalgames.
On mélange pas la viande et le poisson.
Alors restez avec nous chers auditeurs et auditrices si Rémi ne vous fait pas fuir. Ça va être l'heure du jeu radiophonique.
Avec...
pour reposer vos oreilles et pourquoi pas vous faire rire, n'est-ce pas Rémi? Ensuite, nous retrouverons Céline pour Sidetracks, la chronique musicale de Transistor. Et ensuite, vous aurez rendez-vous avec Samantha Barenson, poétesse et romancière, représentante d'une poésie vivante et accessible. Elle viendra nous en parler.
Mais tout de suite, nous voilà en piste et clairement pas rassurés pour Nous, c'est pas les casseroles, pas. Notre jeu radiophonique.
Et bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nous, c'est pas les casseroles. Le jeu qui va vous faire chanter, qui va vous faire rêver, qui va faire chanter les quatre candidates qui sont en lice aujourd'hui. Alors, ces candidates, bonjour Pierre, tu vas les présenter immédiatement.
Et bonjour, nous accueillons ce soir pour notre grand jeu télévisé, nous accueillons ce midi pour notre grand jeu radiophonique, Marie, descendue de sa montagne pour monter à Lyon.
Bonjour.
Alice, réfugiée, échappée de l'enfer vert stéphanois.
Bonjour, mais Saint-Etienne se porte très bien, ils font des bisous là-bas.
Marie, qui n'a pas bougé de sa chaise.
Bonjour Pierre.
Et Aurore, venue droit du soleil ibérique.
Évidemment.
Alors, vous connaissez le principe du jeu, c'est très très simple, on va mettre des chansons, il va falloir que vous continuiez les chansons quand elles s'arrêtent, mais comme c'est la version un petit peu cheap, eh bien, on n'a pas le playback, donc ça va vraiment complètement s'arrêter, du coup, ça va être n'importe quoi, mais on s'est préparé psychologiquement, et on va pas tarder à commencer avec une première chanson qui est pour toi, Aurore. Aurore, peut-être d'abord une première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je joue au Camoulox, principalement.
D'accord, tu n'es pas sur le bon plateau, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Alors, je demande évidemment aux autres participantes de bien vouloir chanter avec Aurore pour la soutenir.
Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner. Laissez-vous tenter, c'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux, c'est un spectacle permanent. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos.
Oh, wow, wow.
Bon, eh bien, bravo. Alors, je sais pas ce que c'est cette feuille sur laquelle tu regardes, mais je commence à avoir déjà des doutes de la première chanson.
Je connais la compagnie créole par cœur,
hein,
c'est bon.
Ok, ok.
Et Aurore ouvre la marche avec un point.
Nous passons immédiatement à Alice. Alice, pour une chanson éminemment politique, qui soutiens-tu en politique, Alice?
Oula! Oula, oula,
oula.
Je ne le connais pas, mais il est sans doute très bien. La chanson, s'il vous plaît.
C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très, très méchants. À part François Mitterrand, qui est un bon président. Charles Pasqua.
Alors là, manque de bol, tu avais les paroles, on sait toujours pas pourquoi, mais pas l'air. Du coup,
Oula.
Tu n'as
pas du tout, mais
du
c'est
coup,
pas
tu
grave.
N'as pas le point. Non, non, c'est très très grave, s'il te plaît, soyons d'accord, cher collègue.
Et nous passons maintenant à l'autre Marie, enfin la première Marie, je ne sais plus comment je les avais présentées. Que fais-tu dans la vie, toi aussi?
Moi?
Non, okay.
Mais non,
elle,
mais
l'autre Marie.
Arrête, Marie. Arrête de surpayer mon identité. Moi, je suis sérieuse. Moi.
Et envoyez la musique.
Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient
Je ne la connais pas, pardon, mais...
S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir.
Mes origines, je ne connais pas ce chant béarnais, bon, pardon.
Mais tu viens du Béarn ?
Oui, je connais la suite.
Et ton pâté aussi vient du Béarn ?
Oui, en effet. Mais ensuite, le président dit... comment il s'appelle ? Enfin, je ne connais pas les chansons, la chanson, mais je connais
le
discours.
Elle connaît la suite de la vidéo, ça peut servir, ouais. Peut-être. Est-ce qu'on est Clément ?
Non.
Si, ça fait un demi-point.
Eh bien, désolé, c'est raté. Ça ne fait aucun point.
Bien.
Oh.
Pourtant,
merci,
nous connaissions ta passion pour ce grand candidat à l'élection présidentielle. Et nous sommes tous un petit peu déçus. Je vois les visages fermés du public. C'est un petit peu dommage.
Une grande déception pour nous tous.
Nous en venons à une autre Marie. Une autre Marie qui est bien là, hein, il faut le dire.
Oui, ce n'est pas mon hologramme.
Est-elle véritablement là ?
C'est un début de bonne réponse.
Tu m'as pris au collier. Et mon cou, tu l'as tendu.
Pas là,
mais t'es pas là, mais t'es où ?
Pas là,
mais t'es pas là,
mais t'es où ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Mais t'es pas là,
mais t'es où ?
Mais t'es où ?
Pas là,
mais t'es pas là,
mais t'es où ?
Elle est pas là,
elle est peut-être là,
mais t'es où ?
Je ne sais plus.
Les parents.
C'est bon, c'est bon.
Oui, là, c'est Vianney sur Transistor. On a des quotas.
Elle a retenu toutes les paroles. Hein.
Et franchement, on peut la féliciter tous.
Nous revenons à toi, Aurore. Aurore, est-ce que tu es confiante ?
Ouf. Elle a pas l'air. Hein. Franchement, je la vois pâlir.
Un peu hésitante. Hein.
Je la vois défaillir.
Toi aussi, tu aimes bien Oula ?
Oula ?
Oula ?
Je sais pas.
Mais c'est un candidat très sérieux.
D'accord, parce qu'on va retourner en politique.
Pour que la terre soit féconde,
tout ce qu'elle a enfanté, il est nécessaire que l'on fonde une nouvelle société. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés.
Ah, il y a un problème.
Si les racines
chrétiennes, hein.
Nous saurons bien les transplanter.
Ouais, Mélenchon, pas trop, hein.
Ouais, transplanter, grand remplacement, tout ça. Ouais.
Et bravo.
Non, mais tu connaissais bien les paroles. Hein. Ça fait plus un pour la chanson et moins un parce que je suis pas d'accord avec tes idées.
Et c'est dommage, Aurore avait pris la tête et elle la perd.
Je perds la tête.
Bien. Sixième chanson, on retourne vers toi, Alice. Cette journée de la radio est placée sous le signe de la politique et je crois que tu allais me sauver la vie en trouvant une question pour Alice.
Oui Alice, selon la conception de la dialectique hegelienne, es-tu plutôt maître ou esclave ?
Bah finalement on est un peu les deux, non ?
Et c'est une très bonne réponse.
Si vous n'aimez pas la France, ça n'a pas d'importance. Foutez
le camp. Je proteste contre la chanson.
Brigitte Bardot et Macharia, ça ne s'accordera pas. Foutez le camp. Oh, c'est pourtant facile à comprendre. Nous ne pourrons pas nous entendre. Et comme il y en a un de trop, qu'ils prennent un bateau
droit vers les îles. Il fait beau et c'est tranquille. Foutez le camp. Vous avez tout.
Eh bien, c'est magnifique, nous venons de chanter en direct Les Brigandes.
Voilà,
c'était
sélection musicale.
Et c'était à merveille. Voici donc
un bon. C'est une honte, mais c'est pas fini.
Je suis scandalisée par ce que vous dites.
Marie, est-ce que ça va bien ?
Ça va, je m'apprête à massacrer.
Ça va bien autour du plateau ? Non, tu connais pas encore la chanson, là.
Voilà,
donc pour l'instant, ça va bien. Du coup, ça me permet d'introduire la chanson suivante.
Peut-être que nos nuits près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part,
Eh bien, bravo Marine, ça ouais, fait merci. Un point de plus. J'espère que tu comptes, Pierre.
Je garde le score et le score, c'est incroyable. Nous sommes à un point chacune.
Quel suspense.
Il nous reste 5 chansons, je crois, hein, puisque Marie, tu n'as encore chanté qu'une seule fois devant le public et Bobby. Et...
C'est pour ça que nous revenons que vous êtes tous à toi.
Quelle est la plus grande responsabilité que tu aies occupée dans ta vie, Marie ?
La présidence de Transistor.
Bonne réponse.
Tous avec nous.
Et la chanson d'anniversaire des 1 an de Transistor, retrouvée par hasard sur un vieux CD dans un fond de placard l'an dernier en rangeant le studio, comme quoi on fait de belles découvertes en faisant le ménage.
C'était encore l'époque des CD donc.
Voilà, en parlant de ménage, on revient pas tout de suite aux Brigandes, mais à une chanson pour Aurore. Aurore, tout va toujours bien ?
Toujours.
Quel pays aimerais-tu visiter ?
Comme ça ?
Ouais.
L'Espagne.
Plutôt un peu plus vers l'Est.
C'est pas non. Comme si tu l'avais déjà
bon, fait. Il va falloir partir un peu plus à l'Est.
C'est un peu diphonique tout ça. Non, je fais honte à cette chanson.
Je chante pas beaucoup.
Non.
Et quel dommage, les paroles étaient pourtant plutôt simples. Hein. C'était juste...
C'est là qu'on aurait eu besoin de Nicolas, exactement. Notre grand spécialiste en chant diphonique sur Transistor, car oui, nous avons fait de cette pratique une spécialité.
Et nous sommes donc désolés, Aurore, tu n'auras pas ce point. Nous passons à la suite, sans contestation.
Alice, la pop culture, c'est ton truc, tu
ouais,
disais.
Plutôt.
Allez, c'est parti.
C'est mon Elle m'avait dans le VIP, me prend pour un mec mortel.
C'est pas que si elle m'a
dit,
Ça va quand même.
Ouais, pour la rythmique, c'est pas trop ça, non. Mais les paroles, c'était pas mal. Hein. On sent le travail, c'est bien.
Ouais, franchement, je propose même de lui accorder les 2 points parce qu'il y avait 2 extrêmes manquants. Bravo, Alice, tu prends la tête.
Il nous reste actuellement 2 chansons. Aurore est d'ores et déjà éliminée, ce qui m'emmerde puisqu'elle présente cette émission.
J'ai eu le chant diphonique, c'est absolument inconcevable.
Bah, attends, le principe c'est de faire 2 chants en même temps, tu pouvais gagner 2 points.
Ouais.
Il nous reste 2 chansons, la première est pour Marie, la seconde est pour Marie. Marie, est-ce que tu es prête ?
Toujours prête.
Avant ça, une petite question, Faucon Millenium ou Black Pearl ?
Ah, je sais pas, j'ai pas su répondre la dernière fois qu'on me l'a
dit. Eh bien c'est une mauvaise réponse.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants d'être et vénèrent tes ans à ton appel suprême. Répondu présent,
maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égardons, de servir et de suivre.
Du bon goût, les gars.
Qui a dit que le maréchal c'était bonne ambiance?
En tout cas,
on termine avec une dernière chanson, qui est pour toi, Marie. Tu vas voyager aussi un petit peu à l'est, mais pas autant qu'Aurore.
Avec la possibilité de prendre la tête.
Et l'avion.
Maya, Maya ou Maya ha, Maya ha ha.
Allô,
allô, salut,
c'est
Draluk, Citeron, Yulmira, Princesa, Felicita. Allô, allô, c'est Picasso, Austin, Darby, Ci sono voli, la sestino, Sterminic, Presta, presta, no ma no ma ye, no ma no ma ye. No mano mano maillé qui postèche.
Bravo,
et on parle pouvoir.
Bon, c'est dommage, c'était pas ton tour, Aurore. Hein.
Et mais pourtant, ça donne 2 points à Marie qui.
Deux ? Pourquoi deux ?
Parce qu'il y avait 2 extrêmes encore.
Oui, et puis sinon, il y avait égalité. Du coup, 2 points pour Marie. Marie, tu as gagné. On est en train de bouffer le chrono. Bravo, Marie. Et immédiatement, retour à la culture. On vous rend l'antenne.
Merci, Rémi. Bon, alors ça m'a un petit peu épuisée, cette victoire. Il est quand même grand temps de soigner nos petites oreilles abîmées par nos chansons fausses avec la sélection musicale de Céline qui nous parle de Slow Joe and the Ginger Accident. Il est 13h31 sur Transistor. Restez bien installés dans votre fauteuil pour Side Tracks.
Un pour l'argent, 2 pour le spectacle, 3 pour le game.
Classe, man. Top of the pop. C'est du journalisme total.
Pendant 50 ans, il a connu la drogue, l'alcool et la rue. Insoumis, il a chanté l'amour entre Bombay, Goa et Delhi avant de croiser la route d'un Lyonnais, Cédric de la Chapelle. Aujourd'hui, dans Side Tracks, on parle de karma, de la place Satonée et d'un géant disparu, Joseph Manuel Rocha, alias Slow Joe.
There is a darkness in my soul now. I was a stooge of broken promises and false fears.
L'histoire du chanteur du jour, Slow Joe, est celle d'une résurrection et d'une rencontre accidentelle. En 2007, à Goa, Cédric de la Chapelle, alias Ginger, le rencontre et l'écoute, et puis envoie les maquettes en France à Jean-Louis Brossard, le grand orchestrateur des transmusicales de Rennes. Un quatuor de musiciens se forme pour accompagner le crooner indien, ce sera Slow Joe and the Ginger Accident. 2 albums magistraux, Sunny Side Up en 2011 et Lost for Love en 2014, et quelques 300 concerts plus tard, la légende Slow Joe est née. Le chanteur s'installe à Lyon, devient une figure locale de la place Satonée dans le 1er arrondissement, et s'éteint en mai dernier à 73 ans.
Go forget your pain. A little voice in my head. Push your mind down, go down. God damn the pusher man.
Avant sa disparition, Slow Joe a enregistré un ultime album, Let Me Be Gone, en forme de prière de départ ou d'une ultime confession. On pense bien sûr à un autre grand disparu de l'année, qui avait lui aussi donné un ultime album aux allures de testament musical, Leonard Cohen. Les parallèles sont en fait frappants. Comme chez Cohen, il n'y a pour Slow Joe rien de plus sérieux que la musique, mais aussi les femmes. Et puis dans leurs chansons à tous deux, le récit d'une vie cabossée, l'attente patiente et assagie de la mort, et une spiritualité intense, lumineuse et communicative.
I went to the temple. I went to the mosque. I went to the church too. All the time that was lost.
De la magie pure, c'est ce que je vous promets à l'écoute de cet album et d'un crooner passionné, épris de la musique d'Elvis, de Ray Charles, de Billie Holiday ou du jazz de Cole Porter. Loin de moi l'idée d'en faire une pâle copie, car Slow Joe a le don des compositions riches qui font du bien à l'âme et au corps. Lui qui n'a jamais cessé d'écrire pendant sa vie se montre tour à tour malicieux, bouleversant, crépusculaire et lyrique. Bref, un poète maudit comme on en rencontre peu aujourd'hui et qui, par la seule force de sa voix écorchée, vous donne des frissons de fascination. Entre électro-rock oriental, swing et blues psyché, on voyage au rythme du chant du cygne de Slow Joe, accompagné souvent d'un saxophone solitaire. Mais n'allez pas croire que cet album n'est fait que pour le recueillement. Slow Joe sait chanter l'amour charnel, sensuel et l'extase qui mène à la fusion des corps. Monumental, osons le mot, cet album électrisant est à écouter en boucle du début à la fin, avec un peu de nostalgie à l'idée de ne plus pouvoir voir Slow Joe sur scène, où l'incarnation devait confiner à la transe. Et pourtant, il y a des chansons qui semblent nous dire qu'il sera toujours là, et qui donnent aux Konkani, la langue de Goa, leur plus bel écrin. Sans détour, Slow Joe chante aussi ses problèmes d'addiction, sa vie de vagabondage, avant de se retirer sur un ultime titre, Silent Waves, sans doute le plus beau et le plus bouleversant de l'album.
Hush. We know softly come to me in the middle of the night in silent words.
Aujourd'hui, le groupe de Slow Joe est en tournée hommage aux chanteurs. Ce soir, ils seront de passage à Lyon, au Transborder, et s'il reste des places, s'il vous reste assez d'énergie après cette journée pour y aller, allez-y pour que résonnent encore les mots de ce poète aux semelles de vent. Je vous conseille aussi l'écoute sans modération des trois albums de Slow Joe and the Ginger Accident, dont le dernier apparu en janvier dernier chez Musique Sauvage. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur le site de Transistor et de la Journée de la Radio. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Sidetracks. Et je vous laisse en compagnie d'Aurore et de Marie pour la suite de Transistor Midi.
Merci Céline pour ce beau moment musical qui nous offre une transition toute douce vers la dernière partie de cette émission. Nous recevons pour la dernière demi-heure l'invitée de Transistor Midi, Samantha Barenson, poétesse et romancière, tout de suite après un jingle. Okay.
Alors, bonjour Samantha.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de Transistor Midi. Tu es poétesse et depuis peu romancière. Tu fais partie du syndicat des poètes qui vont mourir un jour, collectif dont le nom nous a pas mal intrigués et dont nous parlerons. Tu as publié dernièrement Mon citronnier aux éditions J.C. Lattès et on en reparlera ça aussi un peu plus tard dans cette interview.
Déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et d'où viennent tes voix poétiques ? Le français, l'espagnol, l'italien ?
Alors, j'aurais presque envie de vous lire un extrait de mon livre pour vous expliquer d'où je viens. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?
Oui, vas-y.
Parce que ça sera...
En direct, on a tous les droits.
Voilà.
Écoutons.
Non, mais c'est assez bien résumé, comme ça, j'oublie rien. Je suis née en Espagne d'une mère argentine et d'un père italien qui est décédé. Non, je ne suis pas espagnole. Je suis née italienne et maintenant je suis également française suite au mariage de ma mère avec un grand type français. J'ai grandi au Mexique et... Non, je ne suis pas mexicaine. Et non, je n'ai pas le même patronyme que ma mère, ni celui du grand type. Je m'appelle comme mon père, celui qui est décédé, en Argentine. Non, il était italien. Et oui, je suis française. Comment ça, ça ne va pas être possible? Comment ça, il manque un document? Donc ça vous résume ma vie quand j'allais à la mairie pour demander un extrait d'acte de naissance, avec une pile très très haute de documents. Et c'est ce qui a nourri ma vie, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un minimum de 3 langues présentes, de 3 ou plusieurs nationalités, et j'ai essayé dans l'écriture de profiter de cette richesse qui a longtemps été un handicap, parce que Bah, quand j'étais petite, on me disait, mais pourquoi tu parles espagnol avec ta mère? Pourquoi tu parles pas français? On est en France. Ou alors, on me disait, pourquoi tu retournes pas chez toi? Et puis venait la question, mais c'est où chez moi? Et du coup, venait la question de l'identité. Et puis en Argentine, il y a toujours le problème, les Argentins ne sont pas des Argentins, ce sont des exilés italiens, exilés espagnols, exilés polonais, exilés japonais. Et puis un exilé argentin en France, c'est quoi? C'est un double exilé? Alors est-ce que ça annule l'exil? Donc il y a plein de questions d'identité qui du coup nourrissent après toute mon œuvre parce que...
On reparlera des D'accord. thèmes.
Voilà, ouais. C'est bien d'utiliser la oui. douleur ou le questionnement pour en faire des choses belles.
Alors justement, ces choses belles, comment est-ce que tu y es venue à ces choses belles, à cette poésie?
Alors, à la poésie, j'y suis venue grâce ou à cause de Alphonse Cervera, qui est un poète valencien de Valence en Espagne, et qui est venu un jour à Lyon quand j'étais libraire, il y a très longtemps, et il m'a offert son livre, un livre très très moche, qui était violet et orange, pas très joli. Et je l'ai posé sur ma table, et puis au bout de 2 semaines, je me suis dit quand même, ça serait poli de le lire, et puis de lui répondre un petit mot, genre, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et je l'ai lu, et j'ai passé 3 nuits d'insomnie à pleurer tellement c'était beau, et j'ai répondu par 64 poèmes en espagnol qui sont sortis comme ça, comme une espèce de transe et de réponses immédiates et obligatoires. Donc pour ceux qui sont là, je peux le montrer, c'est un livre vert qui s'appelle Les délits du corps, qui était une réponse au corps du délit, qui était le livre d'Alphonse Cervera. Et à partir de là, je me suis aperçue que moi je voulais faire du théâtre. Je voulais écrire du théâtre, mais quand on écrit du théâtre, il faut aller voir un metteur en scène. Le metteur en scène vous dit « ouais, c'est pas mal, je vais réfléchir ». Après, il dit « il faut que je trouve des financements ». Donc, il y a 2 ans qui passent, et puis après, il faut qu'il trouve des comédiens, et après un théâtre. Donc, ça met très, très longtemps. Et la poésie, en fait, il suffit de trouver quelqu'un qui vous prête un bout de scène, et puis vous pouvez lire, et le public qui reçoit ça immédiatement, voilà, il n'y a pas besoin de décor, il n'y a pas vraiment besoin de lumière, on a besoin d'un peu de voix. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette immédiateté de l'échange et du partage avec les autres. Donc ça a été la deuxième étape. Je suis passée d'abord par la poésie écrite, ensuite par la poésie parlée.
Et je vois qu'il y a une troisième étape. Est-ce qu'on peut appeler ça une troisième étape? Le roman.
Oui.
Ton roman Mon citronnier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à cette écriture du roman? Qu'est-ce que c'est pour toi l'écriture romanesque?
Alors, j'avais un, comme on dit en espagnol, un sueño guajiro, comme on traduit ça.
Je botte en touche, hein, je suis absolument pas calée en espagnol.
Un rêve un peu idéalisé, comme toute personne qui écrit, de me dire oh, un jour je ferai un roman, mais écrire un roman c'est beaucoup de temps, c'est une structure, c'est un squelette, c'est réussir à tenir un récit du début à la fin sans entrer dans des incohérences. Parce que des fois, vous dites un truc au début, puis après, vous dites le contraire 100 pages plus loin, puis vous avez oublié ce que vous aviez dit au début. Et je trouvais ça très, très laborieux, comment dire, il y avait vraiment des codes et des choses à faire, je ne m'en sentais pas capable. Donc ça faisait vraiment partie de l'utopie ou d'un truc que je ferais quand je serais vieille. Et il s'avère que Jean-Claude Lattès, il y a une éditrice de cette maison d'édition qui est venue me voir en me demandant, à partir du premier recueil de poèmes, du second recueil de poèmes que j'avais fait, qui s'appelle Le Citronnier, que nos spectateurs ici présents peuvent voir, mais pas à la radio.
Et si, parce que c'est filmé.
Ah, c'est filmé. Ah, bon, voilà, vous pouvez le voir. Qui était un petit recueil de 60 poèmes, mais quand même avec une narration du début à la fin. Donc c'est des poèmes indépendants, mais qui racontent quelque chose. Et chez Lattès, ils m'ont dit ça serait bien d'en faire un roman. Et donc moi, j'avais du coup mon squelette c'était ces 60 pages, et je me suis dit c'est facile, je vais juste en rajouter 60 de plus, ça fera un roman de 120 pages. Et en fait non, c'était pas si facile que ça, parce qu'ils m'ont demandé de remplir des ellipses, de développer des personnages, de donner du corps aux personnages qui étaient dans ce livre. Donc c'est l'histoire de mon père qui est décédé quand j'avais 2 ans en Argentine. Et donc il y a des personnages, donc il y a le père, il y a la mère, il y a la grand-mère, il y a la tante, et puis il y a la narratrice qui est un jeu moi. Et dans le roman, ils m'ont dit, dans un roman, on a envie de savoir ce que la narratrice, elle pense, ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent, et pourquoi elle fait une enquête pour savoir de quoi est mort son père. Et moi, je n'avais pas envie de répondre à toutes ces questions qui me paraissaient de l'ordre de l'intime, jusqu'au jour où l'éditrice m'a dit, mais vous savez, un roman, on peut faire de la fiction. Oh, là, je dis, oh, c'est vrai, oui, j'avais oublié ce détail. Donc, on peut faire de la fiction. Et là, je me suis lâchée. Donc, il y a des passages qui sont inventés. Et...
Je trouve le processus d'écriture très intéressant, le fait de passer d'un recueil de poésie à un roman. C'est-à-dire vraiment de, comment dire, ce que nous, on pense être des catégories de littérature. Et est-ce que ces deux écritures, finalement, sont différentes pour toi ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est marqué... Non, c'est même pas marqué que c'est un roman dessus. Alors, des fois, ils mettent sur la couverture « roman ». Là, ils ne l'ont pas mis. Moi, je considère que ça reste de la poésie parce qu'il y a une écriture qui est poétique, avec une musicalité, avec un rythme, avec quelque chose de très rond. Et c'est vrai que bon, c'est un roman parce que c'est une histoire, il y a une narration, il y a des personnages, et puis voilà. Mais pour moi, ça reste un texte poétique. Et je trouve que c'est un peu compliqué de mettre toujours des étiquettes hyper précises sur les choses. Donc c'est une enquête poétique ou un roman poétique ou une poésie en prose un peu longue ou une épopée familiale poético-exilée.
D'accord. Alors... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier d'écrivaine ? Comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce qu'on travaille quand on est poète, poétesse, romancière ?
Alors, il y a des gens formidables qui se lèvent à 5 heures du matin, qui écrivent pendant 2 heures jusqu'à 7 heures. Ensuite, ils petit-déjeunent. Après, ils vont travailler. Et le soir, ils reviennent à la maison. Ils écrivent encore pendant 2 heures et ils font un livre par an. Voilà, ça, c'est un idéal incroyable. Je ne pourrais jamais me lever à 5 heures du matin. Donc je dors jusqu'à 7h40, je petit déjeune, je vais travailler, je rentre à la maison, je suis fatiguée, je me dis zut, j'aurais peut-être dû écrire. Et j'avance comme ça pendant pas mal de temps sans rien faire, puis un jour je me dis ah là là, mais quand même, je suis poète, il faut que je fasse quelque chose. Et là je me mets à écrire, donc j'écris pendant des jours, des week-ends, où je prends des vacances, ou voilà, j'écris le jour, la nuit, peu importe. Et je fais des recueils qui, d'un coup, surgissent de ma tête. Alors, je les réfléchis beaucoup quand je suis dans les transports en commun, quand je suis au travail, quand je suis à la cantine, quand je marche dans la rue, tout ça, je réfléchis parce que j'ai une écriture très imagée, donc je range les images dans ma tête et j'essaye de faire quelque chose qui peut sortir le jour où je m'assois à ma table. Mais le premier livre, il a été écrit en trois nuits. Le deuxième, ça a été un exercice un peu différent. Je me suis obligée à faire un texte par semaine. Donc voilà, tous les vendredis après-midi, je ne travaillais pas le vendredi après-midi. Du coup, je m'asseyais, je me disais, bon, allez, maintenant j'écris mon texte. Le roman, il s'est fait vraiment en 3 mois, dans une espèce de précipitation. Voilà. Et puis celui-là qui s'appelle Machine arrière, qui est le dernier, j'ai dû le faire en une ou deux semaines, où je m'étais dit, bon là, il faut que je fasse une suite de souvenirs. Donc j'ai pris ma vie du début à la fin et j'ai essayé de me dire, qu'est-ce qu'on retient dans sa tête d'important quand on est un être humain ? Quels sont les souvenirs qui nous restent vraiment en mémoire ? Et à partir de ces souvenirs, j'ai fait une liste et ensuite j'ai fait les textes. Mais c'est allé très vite. Mais voilà, là je suis dans une pause, j'attends que ça vienne de nouveau.
Très bien.
Et après donc, ce travail d'écriture, un texte naît. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du monde de l'édition, vu que ces textes sont quand même édités, partagés à un public? Comment on fait éditer de la poésie aujourd'hui?
Alors, le grand secret de comment on fait éditer de la poésie aujourd'hui. Alors, il faut, première chose, lire les autres. Ça, c'est déjà un bon début pour savoir chez qui on a envie d'être édité. Parce que les maisons d'édition, c'est comme des familles d'écriture. Donc, c'est intéressant de savoir avec qui on a envie d'être publié, auprès de qui dans le catalogue. La deuxième chose, c'est de commencer à être publié en revue. Les revues de poésie, c'est vraiment la première étape. Alors, les gens qui font un recueil, qui l'envoient tout de suite à un éditeur, en général, ça ne marche pas parce que l'éditeur ne sait pas d'où il sort, il en reçoit 400 dans l'année, il n'a pas le temps de tous les lire, donc il a envie de publier des gens dont il a déjà un peu entendu ou vu les textes, et puis surtout des textes de personnes qui s'intéressent aussi à la poésie, parce qu'il y a vraiment ce côté, voilà, si tu veux que je t'aime, il faut que tu m'aimes aussi. Et donc oui, voilà, publié en... Alors il y en a plein des revues, il y a des revues papier, il y a des revues sur Internet, après il faut choisir, donc c'est pareil, c'est comme des histoires de famille, ou alors ça peut être des choix esthétiques aussi, moi j'aime bien les revues jolies, c'est bête à dire, mais j'aime bien quand c'est bien, voilà, quand c'est bien présenté, quand il y a une jolie police, quand il n'y a pas de fautes typographiques ou des espaces manquants là où il devrait y en avoir... Et puis après, il ne faut pas hésiter à aller écouter de la poésie, donc rencontrer le monde de la poésie. Et à Lyon, on a de la chance parce qu'on est un gros, gros pôle de poésie. Il y a des choses à écouter tous les soirs. Donc sur mon site internet, j'ai fait un calendrier qui regroupe tous les événements poétiques qui se font à Lyon et alentour. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, comme il peut y avoir à Paris ou à Marseille. Mais par exemple, si vous prenez Nice, et ben à Nice, il n'y a presque rien. Donc c'est vraiment selon les villes. Donc Lyon, on a vraiment de la chance et puis il y a une vraie belle production parce qu'elle est très variée. Autant par exemple à Marseille, ils sont spécialisés dans la poésie sonore et dans des formes plus expérimentales ou plus en travail avec, je sais pas moi, avec les ordinateurs, avec l'image, avec la performance. À Lyon, on a un éventail qui est très très large. Donc une fois que vous avez publié en revue, que vous êtes allé écouter des gens, bah vous commencez à rencontrer les gens qui sont aussi publiés en revue, vous buvez des canons, et puis petit à petit, bah vous apercevez que les gens qui sont là, ils sont peut-être aussi éditeurs, et à ce moment-là, vous avez peut-être une porte d'entrée pour envoyer votre manuscrit à un être humain que vous avez rencontré autour d'un verre.
D'accord. Alors merci pour tous ces conseils. Alors depuis le début de cet échange, on parle beaucoup de poésie, mais on n'en écoute pas beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord pour nous lire un peu de ta poésie?
Ah, c'est maintenant, d'accord.
Tout de suite, là comme ça, au débeauté.
Tout de suite. Alors,
bon, je laissant le temps d'ouvrir.
Oui, j'avais l'intention de finir par mon citronnier, mais du coup, je vais commencer par des extraits du... Oh, je vais vous en lire un en espagnol et en français. Tiens, ça fera plaisir à Aurore. Puis c'est mes poèmes de jeunesse, si je le trouve.
Oui.
Il y en a un qui est très sympa, il y a du tango. Vous ne pouvez pas nous mettre un tango pendant que je cherche
Malheureusement, la régie n'a pas ça en stock.
Dites deux, trois mots le temps que je boive un verre d'eau discrètement.
On peut faire ça. Donc, restez sur Transistor. Tout de suite, l'instant poétique présenté par Samantha Parenz.
Tomaré un café en un sitio de otros tiempos y con el sabor de la soledad que me persigue... Escribiré los versos hundidos del vientre, pensando en aquel café que tomaremos juntos. Je marcherai dans les grises avenues d'un Paris radieux, à la recherche de cette librairie espagnole, à la recherche de ce livre épuisé que jamais je ne trouverai. Tomaré un mate en el café argentino del boulevard Saint-Germain, miraré hacia un lado, hacia atrás quizás, y estaré de nuevo en mi Buenos Aires perdido, en mi Buenos Aires herido. Je marcherai dans les rues, les places, les églises, le fleuve et puis le reste, détenant le regard, la chaussure dans les cases de ma vie tracées à la craie, au trottoir de couleur, et j'atteindrai le ciel. Tomaré una copa de vino tinto y con un viejo tango, deslizada entre las sombras de un diván oscuro, me olvidaré la hora, el lugar, el tiempo, me olvidaré de ti, que jamás estás. Je marcherai enfin jusqu'au lever du jour, écouterai se mélanger étoiles et oiseaux, mon cœur meurtri d'avoir trop marché, et boirai un café, le dernier du jour.
Merci.
Merci beaucoup. Je suis personnellement très sensible à cette lecture.
Comprenant, peut-être.
S'il te plaît, Marie.
Bon, d'accord.
Non, reste là, s'il te plaît.
Je reste là.
Toi,
c'est bon.
Toi. Et justement, me vient une question sur ces langues que tu maîtrises, et notamment sur la traduction de tes propres poèmes. Là, ce n'était pas le cas, mais t'as publié des recueils comme Amapolas, de Coquelicot, ou Los delitos del cuerpo, les délits du corps. Et peux-tu nous parler de cette démarche de traduction de tes propres poèmes, de la facilité ou de la difficulté de se traduire? Et est-ce que tu as une langue que tu préfères?
Alors, je n'ai pas une langue que je préfère, j'ai une voix que je préfère, et vous l'avez peut-être entendu, je n'ai pas la même voix en espagnol et en français. et j'adore ma voix en espagnol. Je la trouve très sexy et j'aimerais avoir la même voix en français. Donc j'ai essayé plein de choses et je n'y arrive pas. En termes d'écriture, ben, vivant en France, c'est vrai que je... Voilà, c'est plus naturel pour moi d'écrire en français, oui. Mais si je passe 2 jours en Espagne, je reviens avec un recueil de poèmes en espagnol, parce que le cerveau se met tout de suite en marche et se met dans le mode espagnol. Et bon, la même chose m'arrive avec l'italien, mais je vais moins souvent en Italie qu'en Espagne ou en Argentine. Et en termes de traduction, bah, c'est juste l'horreur de se traduire soi-même, parce que c'est un exercice qui est compliqué. L'avantage, c'est qu'on peut se trahir soi-même sans s'en vouloir, mais parfois, voilà, on a des formules qui sont très belles et très rondes dans une langue, et puis dès qu'elles passent dans la traduction, eh ben, elles perdent de cette rondeur. Il y a des mots qui deviennent âpres ou aigus et qui ne sont plus dans la sonorité qu'on avait cherchée. Donc on est vraiment obligé de... C'est plus un travail de réécriture qu'un travail de traduction. Et moi, c'est quelque chose qui me fatigue un peu, parce que j'ai l'impression d'écrire 2 fois la même chose. Et je rêve du jour où une personne va venir me dire « Viens, je vais traduire tous tes poèmes ». Alors, c'était déjà un peu arrivé. J'ai un ami professeur d'espagnol qui avait commencé à traduire Le Citronnier. Je m'étais dit « Chouette, ça va être merveilleux ». Et c'était très, très bien traduit, mais c'était traduit en espagnol d'Espagne. Et moi qui suis argentine, y avait des choses qui me choquaient, parce que... Bah, ça a beau être la même langue, on a beau se comprendre, c'est pas les mots que j'aurais utilisés. Et du coup, j'ai retravaillé le texte pour le rendre plus argentin. Donc voilà, du coup, c'est plus une histoire de temps. C'est le temps que je passe à traduire, je ne le passe pas à écrire. Et c'est toujours un dilemme. Mais quand d'autres traduisent, je voudrais qu'ils traduisent comme moi, je l'aurais traduit. Donc il faudrait un clone. Si quelqu'un sait comment faire des clones, je suis preneuse.
Alors, une dernière question, peut-être, pour refermer cet entretien. Avec cette question de la traduction, il y a aussi la question de l'accessibilité. À qui est-ce que tu adresses ta poésie ?
À qui est-ce que j'adresse ma poésie ? C'est une question piège, ça.
Non, il n'y a pas de piège.
Alors, déjà, j'ai une fille qui a 15 ans. Et donc, je trouvais ça pas mal. Parce que je me suis toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, tous les jours, je lui écrirai comme ça. Quand elle sera plus vieille, elle aura un super souvenir de moi. Puis je ne l'ai jamais fait, parce que par flemme. Et donc, le Mon Citronnier, là, mon roman, à l'intérieur, il y a une lettre qui lui est clairement dédiée. Et puis, c'est quand même, voilà, c'est un peu mon histoire. L'histoire de son grand-père, qui était mon père, un peu l'histoire de sa grand-mère, mais que je n'ai pas trop dévoilée parce que ma mère est encore vivante et qu'on va respecter son intimité. Mais je trouve que, voilà, c'est... D'un point de vue personnel, voilà, ça pourrait être adressé à ma fille. Et sinon, c'est plutôt... quand on écrit aussi pour mettre des mots sur les mots que les gens qui n'ont pas les mots n'ont pas. Est-ce que c'est clair ? Non, mais c'est...
C'est poétique.
Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à nommer. Le métier d'écrivain permet de faire ça, c'est de nommer des choses indicibles pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. Et moi, je trouve ça très émouvant quand des gens, par exemple, il y a des gens qui ont perdu leurs parents pendant la Shoah, qui sont venus me voir quand j'ai reçu le prix René Leno, en me disant « Merci, vous avez mis des mots sur l'absence de mon père, sur la douleur que je ressentais d'avoir perdu mon père. » Et cette personne avait perdu son père pendant la Shoah, alors que moi, j'ai perdu mon père dans un hôtel à cause d'un accident de radiateur. On n'était pas du tout dans le même niveau de tristesse et de perte, et pourtant, mes mots les avaient consolés. Donc, je trouve ça assez magnifique.
D'accord. Eh bien, on peut refermer cet entretien.
Nous refermons cet entretien.
Refermons.
Merci Samantha d'avoir répondu à nos questions. Nous pouvons te retrouver en chair, en os et en voix à Vienne pour une lecture à la librairie Luciole. Ce sera le 22 avril, je crois.
Oui.
Mais aussi au Salon du Livre et de la Presse à Genève pour ton roman Mon Citronnier du 27 au 29 avril.
Voilà, donc ça c'était pour ton agenda prochainement. Alors tu disais que pour la poésie, on a besoin d'un petit bout de scène et de voix. Donc je pense que c'est à peu près ce qu'on avait aujourd'hui pour te recevoir. Donc merci beaucoup d'avoir fait entendre de la poésie vivante et bien vivante, très vivante, à la radio. Ça nous paraissait très important aujourd'hui dans une émission comme Transistor Midi. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Alors, chers auditeurs et auditrices, il va être temps de rendre l'antenne très très bientôt. C'était Transistor Midi, une émission d'Aurore Sasportes et Marie Lécuyer.
Avec aujourd'hui autour de notre plateau, Céline, Rémi, Gaël, Pierre, Mathias, Solène, Clémence, Anastasia et Alice.
Ça en fait du monde.
Mais encore, merci à notre invitée Samantha Marinson d'avoir été parmi nous ce midi. Merci aussi à la régie et merci Marie. J'ai été ravie de partager ce bon moment avec toi. Ce fut une belle première fois.
Promis, on ne vous remet pas Jeanne Masse, ne paniquez pas. Merci à toi Aurore de t'être tirée de ton marécage agrégatif. Merci à tous les agrégatifs qui sont là, on leur dédie aussi cette émission. Merci de venir exprès pour venir faire ce Transistor Midi avec moi. Et enfin, nous embrassons bien sûr très fort les précédents présentateurs et présentatrices de cette émission. Thomas, qui est dans le public, Marie-Ève, Pauline et Baptiste. Et avant de nous étouffer avec davantage de remerciements, on espère au moins que vous aurez passé une bonne pause déjeuner en notre compagnie. Voilà, restez. Une pause à peu près savoureuse.
Toujours savoureuse. Restez sur Transistor, c'est la 6e édition de la journée de la radio. À suivre, la table ronde autour du thème de la radio en campagne. Ce sera juste après le flash info de 14h. Bonjour Robin.
Bonjour. La sécurité routière a annoncé aujourd'hui que 266 personnes avaient trouvé la mort sur la route le mois dernier. C'est 11 de plus qu'en mars 2016. Néanmoins, la forte baisse enregistrée en février oriente la tendance à la baisse pour ce début d'année. Ce jeudi, le gouvernement canadien de Justin Trudeau a présenté un projet de loi visant à légaliser le cannabis dans un peu plus d'un an et qui ferait donc du Canada le deuxième pays du monde à autoriser son usage récréatif. À la suite de plusieurs heures de rencontres hier entre Rex Tillerson et Vladimir Poutine à Moscou, les représentants américains et russes se disent prêts à tenter de surmonter leur faible niveau de confiance pour mener une lutte implacable contre le terrorisme. Cette rencontre arrivait dans un climat de tension entre les deux pays. Et aujourd'hui, le président Trump a néanmoins réaffirmé sa volonté de s'entendre avec Moscou, malgré des relations qu'il dit au plus bas. Actualité internationale toujours, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inauguré ce jeudi un imposant complexe résidentiel. Selon l'AFP, il s'agit d'un geste pour apaiser l'image sulfureuse de son pays en pleine crise internationale sur ses programmes nucléaires qui font suite notamment à des déclarations de Donald Trump. Reste à savoir si ce geste de construction va plaire à l'ancien géant de l'immobilier américain. En effet, au même moment, le président américain proposait à la Chine un accord commercial en échange d'une aide géopolitique contre la Corée du Nord. Économie maintenant donc, la banque JP Morgan a révélé ce jeudi son bilan trimestriel. La grande banque américaine a annoncé que son profit avait augmenté de 17% grâce notamment à un marché financier plus favorable. François Hollande a également pris la parole aujourd'hui et a annoncé qu'il donnerait une recommandation de vote pendant l'entre-deux tours. Et hier, Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting à Lille. Ce candidat cible de beaucoup d'attaques en ce moment voit croître ses intentions de vote puisqu'elles atteignent désormais 18,5%. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a appelé Benoît Hamon à se retirer en faveur de sa candidature.
Eh bien, merci Robin pour ce flash. Nous commençons maintenant notre deuxième table ronde de la journée. Bonjour à tous, vous nous écoutez en direct ici dans le théâtre Cantor de l'ENS de Lyon ou chez vous grâce au direct filmé sur journeedelaradio.fr. Bienvenue donc dans notre deuxième table ronde, une journée placée sous le signe de l'engagement, de l'opinion et du débat. Pendant 1h30, donc, nous allons ainsi vous parler d'information et d'opinion, à la radio, certes, mais aussi en élargissant la focale au monde du journalisme, au monde de la télévision, à ses pratiques et à ses représentants. Alors tout de suite, en compagnie d'Evelyne Cohen, d'Armel M et de Dominique Volton, place à la table ronde, quand écouter l'information fait entendre